La loi sur les soins de vie prévoit que maintenant, toutes les personnes ont le droit de recevoir des soins palliatifs et d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, si elles répondent aux critères de la loi. Donc, il y a un aspect de cette loi qu'on n'a pas négligé, qu'il ne faut pas négliger, c'est la primauté des volontés de la personne. Donc, il faut, à vous qui nous écoutez, que les volontés soient respectées. Vous sachiez que les volontés soient respectées. Il y a toutes sortes de manières d'y arriver. Il y a des nouvelles dispositions dans la loi. Et pour en parler, Maître Laurent Fréchette, notaire du cabinet Hug Fortier Fréchette, va nous aider. Bonjour, Maître Fréchette.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc, expliquez-nous mieux cette procédure ou cette précision qu'on appelle les directives médicales anticipées.
Alors, lorsque la loi sur les soins de fin de vie a été mise en place en décembre 2015, la plupart des gens ont retenu essentiellement l'aide médicale à mourir comme étant le changement majeur qui se présentait, mais peu ont été au fait qu'il était dorénavant possible de venir prévoir l'expression de notre volonté à l'égard de notre fin de vie si certaines situations spécifiques pouvaient se présenter. Les gens sont habitués depuis une vingtaine d'années d'avoir fait des mandats en cas d'inaptitude.
Oui, voilà.
Des mandats de protection.
C'est pas le mandat d'inaptitude. Là. C'est important que les gens comprennent. Hein?
Absolument. Alors, dans les mandats de protection ou mandats d'inaptitude, les gens, depuis de nombreuses années, viennent prévoir des directives de fin de vie qui donnent mandat à notre mandataire de venir préciser si on est dans une situation où il n'y a plus de possibilité de pouvoir vivre sans dépendre d'une machine ou autrement, de venir apporter des précisions pour que notre mandataire puisse décider en notre nom d'arrêter les traitements pour limiter l'acharnement thérapeutique.
Et donc,
les directives, excusez-moi.
Non, allez-y.
Les directives médicales anticipées vont un petit peu plus loin. On n'est pas dans un contexte où on s'en remet à notre mandataire, mais bien dans un contexte où la personne peut dorénavant venir donner l'expression de ses volontés à l'égard de trois situations précises et elle pourra consentir ou refuser à certains soins spécifiques qui pourraient être rendus nécessaires à l'égard de la personne. Mm-hmm. Et donc, on n'est plus avec un intermédiaire qui est le mandataire pour agir, mais c'est vraiment entre la personne qui est le patient qui va donner des instructions qui pourront être transmises au corps médical dans le cadre d'un document qu'on va pouvoir rédiger.
Mais c'est majeur, Maître Fréchette. Là. Ça veut dire qu'on va encore plus loin dans la précision de ce qu'on veut, au fond, pour la fin de notre vie. Donc, je me demandais comment on procède pour faire connaître ces volontés, là, ces directives médicales anticipées.
Alors, la situation qui est couverte par les directives, ce qu'on appelle les DMA, une directive médicale anticipée, alors, il y a trois situations très spécifiques qui sont couvertes par la loi pour l'instant. Éventuellement, on pourrait être appelé à avoir des modifications où il y aurait un élargissement qui pourrait se faire, mais pour l'heure, le consensus social et législatif a été porté sur trois situations très spécifiques.
Okay.
Alors, on est soit dans une situation de fin de vie et atteint d'une maladie qui serait neurodégénérative.
Donc, on peut penser, entre autres, à la sclérose en plaques ou la dystrophie musculaire. Est-ce que c'est ça dont on parle?
Ça pourrait être une situation comme celle-là. Ça pourrait être dans un cas de coma irréversible,
par exemple.
Soit qu'on est atteint d'une maladie sévère et irréversible qui affecte nos fonctions cognitives, qui vont résulter d'un état comateux ou végétatif, ou si on est atteint d'une maladie sévère et irréversible qui affecte les fonctions cognitives, qui vont résulter en d'une démence de type Alzheimer ou un autre type de démence à un stade avancé. Alors, donc, les trois cas, si on l'image assez rapidement et simplement, vous pourriez avoir une personne qui serait Alzheimer, neurovégétative, et donc vraiment en fin de vie, et pourrait à l'avance, dans un document, venir dire, ben, si la situation se présente, voici quelles sont mes volontés à l'égard de tel type de soins.
Okay.
Ou une personne qui a la maladie de Lou Gehrig, la SLA, et qui d'avance fait connaître sa vision à cet égard-là. Ou quelqu'un qui aurait un cancer avancé et qui se dirait, ben, écoutez, si j'ai éventuellement une atteinte cérébrale qui m'empêche de pouvoir exprimer ma volonté, ben voilà, comme c'est une atteinte neurologique et que je ne peux plus le préciser, ben si je suis dans cette situation, voici qu'est-ce qui va se passer.
OK, donc il faut être très spécifique au fond.
Oui, on a vraiment trois situations spécifiques.
Mm-hmm. Mais avant, parce que le temps presse, malheureusement, j'aimerais que vous puissiez nous exprimer comment, ou nous expliquer plutôt comment les étapes, quelles sont les étapes pour faire nos directives médicales anticipées.
Alors, il y a deux possibilités. Une personne peut décider de procéder par elle-même en communiquant avec le ministère de la Santé et Services sociaux pour, donc, le site là, santé.gouv.qc.ca pour obtenir les informations pertinentes et faire venir directement du ministère les formulaires. Et donc, il n'y a pas de frais, mais on est dans une communication téléphonique où on nous posera un certain nombre de questions pour tenter de nous identifier et on nous enverra par la poste le formulaire qu'on aura à compléter et on requerra la personne de quand même d'obtenir les informations qui vont être pertinentes là, pour permettre de bien prendre sa décision de façon éclairée. Ça, c'est la première voie. La personne va le signer et va pouvoir retourner le formulaire en question au ministère qui va le conserver et l'enregistrer dans son système.
Ou, et on peut être accompagné aussi, c'est ça. C'est ce que vous voulez. On peut être accompagné d'un notaire aussi.
Ou sinon, la deuxième fois, c'est de le faire sous forme notariée. L'avantage, et ce n'est pas une question de prêcher pour ma paroisse, mais le notaire, comme officier public, fait la preuve de l'identité, donc et du consentement libre éclairé et de la capacité de la personne au moment où elle signe les documents. Alors, c'est sûr que ça rend beaucoup plus difficilement contestable un document qui est fait devant notaire. On est certain que la personne qui l'a fait a bel et bien compris ce qu'elle est en train de faire et que ce n'est pas quelqu'un qui a pu tenter de se faufiler pour faire connaître l'information, ce qui peut... Écoutez, il y a un risque qui est là quand on n'a pas une façon très précise de valider l'identité.
Oui, je comprends. Et donc, on va devoir se quitter à ce moment-ci, mais c'est important, Maître Fréchette, qu'on rappelle que les gens peuvent s'informer auprès d'un 800 notaire aussi, hein, pour trouver un notaire, avoir l'information préalable, ou encore s'adresser à vous peut-être, Maître Fréchette. On rappelle que vous êtes au cabinet Hogg Fortier Fréchette. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Maître.
Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir et bonne journée.
Bonne journée.